Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour. La dernière fois, on a laissé un personnage qui s'appelle Raphaël Delpar au moment où il devient assistant de Jean Anouilh. Comme l'émission était intéressante, on la diffuse en deux fois. Et donc aujourd'hui, on le retrouve à ses débuts dans le cinéma et on enchaîne ensuite avec sa carrière littéraire qui est l'objet principal de notre émission, il faut quand même le rappeler. Pour ceux qui ont loupé la première partie, vous pouvez l'écouter, même la télécharger d'ailleurs, en allant sur radioalpa.com, là vous cliquez sur émission, vous verrez dans un bandeau en haut, puis sur samedi, et à ce moment-là vous cherchez un carré bleu où il y a marqué dessus à l'écoute des mots, et vous cliquez enfin sur en savoir plus, et vous tomberez sur l'émission du 20 novembre 2021. Et donc aujourd'hui on reprend la suite avec lui, avec Raphaël Delpar, au moment où il travaille pour Jean Anouilh et où il va rencontrer dans la foulée un certain Mocky.
C'était l'époque où Anouilh écrivait beaucoup de scénarios de films avec lesquels l'argent, il s'achetait des maisons. Enfin bref, ça, c'était son droit. Et moi, j'allais dans les archives, c'est-à-dire j'allais fouiller. Il me disait, tu vas à tel endroit, et tu vas me chercher telle archive. Et j'allais chercher l'archive, je lui apportais, ou je sais pas, à l'époque, il y avait des photocopies, peut-être, je m'en souviens plus. Bref, voilà. Voilà. Et puis, de Jean Anouilh, je rencontre Jean-Pierre Mocky. Et puis, je rencontre après...
C'est ça, une rencontre en entraîne une autre. C'est un ça, jour, Mocky, il est avec quelqu'un de voilà, connu à son c'est tour. Ça, et voilà.
Claude Sautet, à Montmartre. Parce qu'après, bon, je vis à Montmartre. Et à Montmartre, un ami est ami avec un producteur. Ce producteur me dit un jour comme ça, dans la conversation, « Tiens, est-ce que vous connaissez Claude Sautet ?» Ça me disait quelque chose, compartiment tueur.
Vaguement. Enfin,
voilà, vaguement. Il me dit ben, « il cherche des scénaristes ». J'ai dit « Bon, moi, j'avais écrit des pièces de théâtre, mais les scénarios, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. C'était... » Un langage pas inconnu, mais quasiment. Et donc j'ai vu Sautet, et il m'a dit « Bon, bah, écoute, je te prends. Bah, je te prends, hein. » Il parlait comme ça, Sautet. « Je te prends, hein. Mais carré, hein. T'es carré, hein. » J'ai dit « Oui, mais vous inquiétez pas. » Et j'habitais dans le 17e arrondissement, dans une chambre de bonne, encore. Et je rectifiais les scénarios, parce que c'était encore à l'époque où il y avait beaucoup d'argent au cinéma.
C'était de la relecture.
C'était de la relecture et de la réécriture. Mais moi, je savais pas, je réécrivais.
Ce qu'on appelle le desk dans la presse.
Voilà, c'est ça. Voilà, le desk dans la presse. Donc, voilà, tout ça pour raconter que dans ce métier...
C'est une suite de rencontres qui fait une carrière.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça, pour résumer. Mais cela dit, je reviens légèrement en arrière pour dire quand même que les premiers travaux que vous faites, c'est en 1967, c'est le théâtre.
Oui.
Alors, vous aviez donc une formation, je vois dans mes notes, on a dit marionnettiste tout à l'heure, entre parenthèses, mais aussi une formation de théâtre.
Oui.
Vous avez eu...
J'ai joué la comédie, j'ai joué. Oui,
voilà.
Oui.
Et donc là, vous avez joué des pièces de j'ai vu, de, enfin, mis en scène, j'imagine, oui. Des pièces de Gorky, Corneille, Tchekhov, quand oui. même, Joseph
oui.
Topol.
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience-là théâtrale qui est finalement le vrai début de votre carrière?
Oui. C'est exact. Alors, moi, j'en ai, curieusement, on m'a souvent posé cette question. Jouer la comédie, ça m'amusait, mais ça ne me passionnait pas.
Ah.
Moi, ce qui me passionne, c'est écrire.
Créer.
Créer, mettre en scène. Mettre en scène au cinéma, pas au théâtre. La mise en scène de théâtre me passionne.
Ça a moins accroché le théâtre.
Oui, ça a moins accroché.
C'est pour ça qu'il y en a peu, en fait. J'ai vu dans la fiche, le théâtre, il y en a assez peu. Donc là, j'ai vu le cinéma, ça commence en fait en 68 avec La Grande Lessive.
Voilà encore le principe même de la rencontre. Je travaille avec Bourvil, enfin, André Rimbourg, Bourvil, mais je ne sais plus sur quoi. Voilà, on est et il me dit, c'est comme ça que je rencontre Mocky en fait. Voilà.
C'est à l'occasion de ce film-là.
Voilà, c'est comme ça.
D'accord.
Il me dit, je fais un film qui s'appelle La Grande Lessive. Le metteur en scène cherche quelqu'un pour. Il est pas. Même, il dit moi-même. Il m'a dit moi. On sait toujours. Vous voyez. Il m'a dit moi-même. Vous savez, je suis pas content du scénario. Voilà. Là. Et donc c'est comme ça que je rencontre Mocky, qui me donne le truc à lire. Je lui fais modestement mes remarques, comme j'ai fait avec Melville. J'ai fait avec Melville la même chose. Et donc on devient amis avec Mocky et on se met ensemble et on écrit des scénarios et
vous allez travailler
tourne des films.
Vous allez travailler ensemble.
Oui, voilà.
J'ai vu aussi que, outre le cinéma, vous avez beaucoup travaillé pour la télévision.
Alors oui, énormément.
Énormément, hein, oui, apparemment.
Oui. Je suis même incapable de me souvenir de
essentiellement des documentaires, quand même.
Alors, des documentaires, quelques... Pour France 3, j'ai fait des dramas, ce qu'on appelait des dramatiques, que j'ai écrit et réalisé, et beaucoup de documentaires. Et au milieu de tout ça, j'ai fait 600 films publicitaires, dans lesquels, parfois, je tournais comme acteur. Je tournais dans des films que je réalisais. C'était un monde fou.
Ouais,
c'était un monde merveilleux.
Qu'est-ce qu'on a comme exemple de...
Je vais donner un exemple. Il y avait une ambiance. Il y avait... Alors, je ne dis pas qu'on ne se détestait pas, hein, aimablement et courtoisement. Mais par exemple, François Truffaut sortait un film. Il appelait... Alors, je n'étais pas ami avec François Truffaut. On se connaissait, on se croisait, mais je n'étais pas ami. Mais il m'appelait... Il en appelait d'autres. Et il disait, voilà, je sors ce film, est-ce que, vous voyez, est-ce que vous pourriez aller, par exemple, à tel cinéma à 14h, ou plutôt à 16h30, à la fin de la séance, pour écouter les réactions des gens. C'est-à-dire qu'on se on se faisait comme ça...
Un micro-trottoir,
et je l'appelais, et puis d'autres l'appelaient pour lui dire, voilà. Et moi-même, quand j'ai sorti mes premiers films, j'appelais des copains pour dire, tu peux pas aller à tel endroit. C'était le mercredi pour savoir qu'est-ce qui se disait sur le film.
Les réactions à chaud, c'est ce qu'il y a de mieux.
Hein. C'était cette ambiance. Qu'est-ce que je pourrais raconter encore? J'ai assisté à tout le démarrage. Jean-Jacques Haneau faisait de la publicité, on travaillait chez les mêmes producteurs.
Souvent, on commence dans ce domaine-là.
Mais lui, était déjà une vedette sans avoir rien fait. Claude Miller, et voilà, je vais avoir 80 ans en janvier, donc...
Voilà, il y a une histoire du cinéma à travers Raphaël Delpart, en tout cas pour les 50 dernières années.
Voilà, hein, ouais.
Et alors, on va quand même venir un peu à la littérature, parce que c'est un peu le domaine quand même de cette émission. Hein. Donc, on a parlé tout à l'heure des Enfants cachés chez Lattès, et puis cette année, c'est le roman d'amour, alors on a cité le premier, va tout de suite au dernier. Le tout nouveau, c'est le roman d'amour et de vie de Simone Signoret et Yves Montand, qui est un hommage au couple mythique aux éditions de l'Histoire. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous vouliez faire avec ce livre, sachant que des biographies sur eux, il y en a déjà eu, et que après tout, qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter d'autre?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je n'avais pas du tout envie de raconter
leur vie.
De raconter leur carrière.
Ça a déjà été fait.
Voilà, c'était ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'était que ce couple? Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Comment ils fonctionnaient? C'était le couple qui m'intéressait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce couple, comment il serait jugé? Ça serait un couple de bobos, un couple qui vit...
la gauche bobo. Hein.
Voilà, la gauche bobo qui s'engage, mais qui va quand
même... Qui a beaucoup de sous.
Beaucoup de sous, et qui va le soir dîner au Ritz, enfin bon, etc., etc. Et il se trouve que je les ai connus, je les ai rencontrés deux fois. Enfin, une fois tous les deux. C'était en 1972. La raison pour laquelle je me suis trouvé là, je n'arrive pas dans ma mémoire à retrouver le fil. C'était en 1972, au théâtre du Palais de Chaillot. Il y avait une pièce qui s'appelait « Des frites, des frites, des frites », qui était une pièce anglaise, enfin adaptée en français, bien sûr, dans laquelle, pièce, jouait Jean-Pierre Castaldi, qui était le premier mari de... la fille de Signoret. On va dîner, et moi je suis devant ces deux personnages. Ces deux monstres. Montan qui mesure 1m87, elle qui mesure 1m50, Catherine Allégret qui vient de se marier. Je crois même qu'ils ont leur fils Benjamin à ce moment-là. Je dis je crois, grosso modo. Faudrait vérifier, mais bon. Et on va dîner. Et c'est une déception totale. Mais totale. Montan sifflote, comme il fait d'ailleurs toujours. Personne ne parle, sauf...
Tout le monde mange en silence, quasiment.
Signoret a je raconte dans le livre, elle a le poing dans la joue, le coude sur la table, et elle a l'air de s'emmerder comme alors à 100 sous de l'heure.
Comme un rat mort, comme on dit.
Catherine Allégret, elle passe son temps à prendre la main de son mari, à le caresser, lui il voudrait bien manger... etc. Elle trépigne de bonheur. C'est une pile électrique de bonheur.
C'est le grand amour.
Mais j'ai la chance, c'est que ma voisine, c'est Simone Simon. Et donc, je lui parle de la période américaine. Je lui demande pose des questions sur La Féline, le grand film qu'il avait fait découvrir à l'époque. Au moins, j'ai quelqu'un avec lequel je peux parler. Et les autres ne parlent pas. Et curieusement, entre autres choses pour écrire ce livre, j'ai retrouvé une correspondance de Gérard Philippe qui les avait reçus à dîner. Lui, Gérard Philippe, avait fait une tournée en Russie soviétique à l'époque, ils avaient dîné ensemble. Et il dit... Mais cette lettre n'est pas adressée à Signoret et Montan, est adressée à un journaliste, ou à un critique, ou à un journaliste. Il dit, c'est stupéfiant, voilà des gens qui ne parlent pas. Ils écoutent, mais ils ne parlent pas.
Du Far West quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Ça, c'est la première rencontre. Deuxième rencontre, hélas, qui reste une chose de tragique, c'est que c'est à la sortie du film Madame Rosa, La vie devant soi, dont l'un des producteurs est un de mes amis. Il m'invite au grand dîner chez Maxine, et il se trouve que le hasard, je suis assis en face d'elle. Et là, c'est un monstre, quoi. Elle a un masque de graisse, on n'y voit plus les yeux.
C'est plus du tout la même
sublime,
femme.
Des yeux sublimes. C'est plus là. C'est Madame Rosa, quoi, en fait. C'est Madame Rosa. Elle boit whisky après whisky. Elle touche à rien dans les assiettes qu'on met devant elle. Après,
elle se nourrit d'alcool.
Elle fait des brancards. Et elle fait signe à son attaché de presse, de la prendre, de l'emmener, etc. Vision tragique. Moi, je me dis, en 2019, tiens, en 2021, Signoret et Montan, qui sont nés la même année, ça sera l'année du centenaire de leur naissance. Malgré tout, dans ma démarche, il y a le côté, oh, je vais faire un livre.
Bien sûr.
Évidemment.
Bon, c'est de bonne guerre.
Qui va. On ne peut pas ne pas parler de ces gens-là. Eh bien, on ne parle pas de ces gens-là. On ne parle pas de ces gens-là. Et le livre qu'a fait donc Benjamin Castaldi, je n'ai pas les chiffres, et même si je les avais, je ne les dirais pas. Mais je ne suis pas certain que ça ait... Bon, hormis le fait qu'il n'a pas écrit, mais c'est pas grave. Mais ça n'a pas été un succès. C'est-à-dire, moi, j'ai cru, je dis honnêtement, j'avais envie de parler de ces gens-là, ça m'intéressait. Je me suis dit, ça va se vendre.
Ça va cartonner, ça.
Ça va cartonner, je vais cogner. Rien.
Non, c'est bizarre. Hein.
Rien.
C'est bizarre.
Rien. Qui plus est, Mais c'est parce que c'est un manque de réflexion de ma part. Montand est mort il y a 30 ans, aujourd'hui.
La génération d'aujourd'hui, Yves Montand, qui sait ?
Voilà.
Ah, voilà.
Elle naissait. Et elle est morte en 1985.
Et c'est...
Elle avait 64 ans.
Eh oui.
Vous dites à une jeune femme d'aujourd'hui de 30 ans qui est signorée de Montand, sauf si elle est cinéphile ou si alors c'est autre chose. Mais sinon, ils ne savent pas de qui il s'agit. Donc, quand on examine la vie, je ne parle pas de la vie professionnelle, encore une fois. Hein. Montand, il a inventé le récital. Hein. Elle a joué la comédie. Elle n'a pas inventé quelque chose, mais elle a apporté une image extrêmement puissante au cinéma. Mais Lick, c'est quoi ? Ils vivent dans une espèce de petite boutique, mais quand même au quartier latin, etc. Bon, ce qui m'intéressait, c'était de connaître
cette vie quotidienne.
Quels étaient leurs codes ? On sait, ce n'est pas un secret, que Montand, il avait la braguette ouverte. Enfin, je veux dire que les femmes...
Oui, bon, il est connu.
Était fasciné. D'ailleurs, il le dit dans ses mémoires.
Il n'était pas d'une fidélité exceptionnelle.
Il n'était aucune fidélité. Je me suis dit qu'au mois d'octobre, Montand aurait eu 100 ans le 13 octobre de cette année. Personne n'en
parle. Oui, c'est même vrai.
Pas.
C'est vrai qu'à la télévision, nulle part.
Plus toute la gauche. Puis toute la gauche va monter, va se rappeler.
Il n'y a rien dans les médias, rien du tout. C'est vrai, c'est exact.
Tout. Donc c'était ce couple, c'est leur fonctionnement et leurs engagements. Et là, sur leurs engagements... Je comprends, mais ce que je ne comprends pas, et je suis très sévère, c'est qu'on va prendre un exemple simple, un seul. En 1950, Signoret et Montand signe l'appel de Stockholm. Qu'est-ce que c'est que l'appel de Stockholm ? C'est le parti communiste soviétique qui lance un appel au monde pour lutter contre la bombe atomique. Très bien, ils signent, et ils ont raison. À leur place, au mal.
Ça part d'un bon sentiment. Hein,
oui. Justement, on apprend quand même, entre 1950 et 1963, on apprend tout de même que tout cela était une manipulation. Il est interviewé à la télévision, je ne sais plus dans quelle émission, et on lui reparle de l'appel de Stockholm, et c'est comme s'il l'avait signé 2 heures avant. C'est-à-dire que, ce que je veux dire en clair, c'est que...
Il ne remet rien en question. Il reste figé dans son...
Totalement.
Dans son opinion.
Alors lui, il finit. Lui, il est né communiste, comme il disait. Son père, en Italie, avait adhéré contre le fascisme italien. Il avait adhéré au mouvement communiste italien. Et Montand disait très justement qu'il était né communiste. Mais lui, il va s'en éloigner, à devenir récanien, d'ailleurs. Il va devenir Reagan, un Reagan français. Quant à elle c'est, enfin, de mon point de vue, paix à son âme, comme on dit, mais c'est pas bien. Elle dit « Oh, mais finalement, je suis une épouvantable intellectuelle », et elle fait une pirouette là-dessus, et elle ne veut pas se déjuger.
En fait, elle botte en touche, en quelque
elle
sorte.
Elle botte en touche. La voilà la jolie vigne au pain, la voilà la jolie vigne, de verre en vigne, la voilà la jolie vigne, 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 vigne le pain, la voilà la jolie vigne au pain, la voilà la jolie vigne. Vigne en grappe, la voilà la jolie grappe. Grappe, 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 on le grappe. La voilà la jolie grappe au vin. La voilà la jolie grappe. De grappe en rote, la voilà la jolie hotte. Hotty, hotton, hotton, le pain. La voilà la jolie grappe au vin. La voilà la jolie grappe.
Bien. Eh bien voilà, en tout cas pour les Sartois, eux ils vont peut-être l'acheter le livre, parce que là on a quand même bien un petit peu fait le tour. Hein. Et le 23 octobre dernier, vous avez dédicacé la cavalcade des enfants rois chez France Loisirs, rue du Docteur Leroy au Mans, publié une première fois aux presses de la cité en 2017. Est-ce que ça veut dire que c'est une réédition de France Loisirs ou c'est ça ?
France Loisirs, et moi j'ai découvert, hein, il se trouve que France Loisirs a lancé une édition poche de certains titres, et donc c'est une édition poche.
Et c'est pas la première fois que France Loisirs publie vos livres.
Ah oui.
Bon, maintenant globalement, parce qu'on approche de la fin là quand même, pour résumer un peu votre parcours littéraire, mais aussi documentaire, on peut dire que l'ensemble tourne autour de des deux guerres mondiales. Pour la deuxième, je dirais surtout la résistance et la déportation.
Oui.
Et l'Algérie,
oui.
L'Indochine,
oui.
Mais aussi le monde rural. Et, quelques romans d'ailleurs ponctuent cet ensemble. Parce que vous avez beaucoup de livres, ce sont, comme vos documentaires, hein, ce sont des livres documentaires, des romans. Et vous avez fait un roman, vous venez de dire que le roman en question, La cavalcade des enfants, c'est un roman
ici, qui se passe ici,
ici. Mais il y en a un autre en 2015, c'est Le courage de Louise, chez Calman Lévy.
Ah, oui.
Alors comme on est dans la Sarthe, évidemment, j'insiste là-dessus.
Alors, c'est, Le courage
c'est
de Louise...
Je ne l'ai pas lu, donc c'est quoi l'intrigue ?
Le courage de Louise qui se passe... À Parigné-l'Évêque.
Tant qu'à faire.
Ça se passe à Parigné-l'Évêque. Et c'est un hommage aux femmes pendant la guerre de 14, car on le sait que les femmes ont gagné la guerre. Malheureusement, elles n'ont pas eu le droit de vote. Et donc, c'est vu à travers une jeune paysanne qui a 18 ans, qui est un peu autiste, elle est un peu en marge de la société. Elle est en fait lavandière et elle, au mois de juin 14, elle épouse nuit de la Saint-Jean. Vous savez, quand on passe au-dessus du feu, il y a un garçon qui lui prend la main et qui lui dit « Est-ce que tu veux être ma promise ?» Et si on passe au-dessus du feu, je ne sais plus quoi, et si ta robe ne brûle pas, elle dit oui. Donc lui, le 4 août, il part à la guerre comme tous les hommes, et elle se retrouve avec une petite ferme, elle n'y connaît rien, elle ne sait pas du tout comment on se débrouille. Et on voit à travers le roman que l'amitié des femmes, comment les femmes s'organisent, elles deviennent maréchales ferrants, elles font le travail des hommes, elles deviennent même...
Il y a une solidarité dans le village qui se forme.
Absolument. Et on la voit, petit personnage un peu autiste, un peu en marge, on la voit évoluer, elle va même acheter une motocyclette, les premières motocyclettes, elle a une copine qui est maréchal ferrant qui a 22 ans, etc. On voit, et je veux, j'ai un autre roman que je
n'ai pas. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose en cours ?
Oui, en cours, mais qui n'est pas écrit, qui est construit là dans ma tête, qui est déjà quasiment construit. Mais j'ai besoin de venir sur place, et je ferai. Ça se passe dans les vignes, les vignes sartoises.
Et Janière.
Voilà, les Janières, faire connaître Janière.
Coteau du Loir.
Il y a des gens sublimes, des gens magnifiques, qui ont d'abord quitté la ville pour venir dans le monde rural, qui ont acheté ou hérité, peu importe, une vigne, qui la font renaître, etc. Là, il y a un beau travail, il y a de beaux visages, il y a de belles... Et c'est encore, ce sera de toute façon encore une jeune femme qui, elle, a une vie mondaine à Paris, elle est représentante médicale, enfin, etc. Elle a un amant qui est son patron, en fait. Et un jour, elle va hériter d'une vigne, un vignoble plutôt, hein, je crois qu'on dit un vignoble. C'est pas le Janière, bien sûr, mais je vais inventer. Hein. Et elle va accepter. Elle sait même pas pourquoi elle a accepté. Elle rompt complètement avec sa vie.
Son ancienne vie.
Son ancienne vie, bourgeoise, bien, avec un bel appartement.
Avec un certain
à Boulogne,
confort.
À Bouillancourt, ça. Et elle va aller vers la terre, elle va aller vers le ciel, elle va aller vers les odeurs, etc., etc. Voilà. Pour moi, le titre, pour l'instant, c'est « Quand vient l'amour ». Quand l'amour vient, pardon.
Quand l'amour vient. Bon, provisoire, titre provisoire. Eh bien, Raphaël Delpart, on va se séparer là, mais je pense que là, oui. Les Sartois, ils en savent quand même pas mal sur vous, oui. Hein, cette fois-ci. Hein. Et on aura sûrement l'occasion de se revoir pour d'autres aventures. J'espère. Et donc, on va... je vous remercie d'avoir consacré petit peu de temps dans une librairie du Mans.
Je peux dire un dernier mot ?
Oui, absolument.
Alors, je compte boucler une partie de la boucle, à savoir que je vais essayer de venir vivre en Sarthe.
Ah, voilà. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous.
Ouais, exactement.
Enfin, bon.
J'espère en tous les cas.
Bon, on finit bien là. C'est sympa. Merci hein, Raphaël.
Merci.
Eh bien, vous l'avez dit, hein, que ce serait compliqué. La preuve, on a abordé à peine, je pense, un dixième de la carrière de Raphaël Delpart. Alors, comment faire avec un homme qui, rien qu'en publicité, il l'a dit tout à l'heure, a réalisé plus de 600 spots. Vous voyez que c'est très compliqué. Sans doute, peut-être, en l'invitant à nouveau à une première occasion. Je ne vois pas d'autre solution, franchement. En attendant, rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel interlocuteur ou une nouvelle interlocutrice et portez-vous bien.